deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Nous aimerions avoir des vies grandioses, extraordinaires, des vies en forme d'arc de triomphe ou de licorne. Il faut pourtant l'avouer, observer d'un certain point de vue, les trois quarts de nos existences prêtent plutôt à rien. C'est ce point de vue que nous avons adopté aujourd'hui. Vous allez entendre de drôles d'histoires, sur des sujets pas forcément comiques en eux-mêmes. Dans l'ensemble, les héros de ces nouvelles s'en prennent plein la figure. Il y a des gens qui ont bien du mal à trouver leur place.
Olivier, guide de montagne auto-déclaré, accompagne Rosine et Baptiste, des citadins, ses clients. Après avoir crapahuté sous le soleil et dans la chaleur, l'obscurité et l'humidité de la Sylve les envahissent. Olivier déteste les êtres humains. Il hait les femmes. Rosine n'aime pas l'attitude d'Olivier. Autoritaire, hargneux. Baptiste s'en accommode. Lui ne s'intéresse qu'à la technicité du parcours. Olivier s'ennuie. Très agacé aussi par Rosine que rien ne satisfait. Trop préoccupé par sa petite personne, se dit Olivier. Comment faire pour mettre un terme à cette maudite randonnée ? Des branches d'arbres craquent, des oiseaux émettent des sons inquiétants en s'envolant. Et là, soudain, face à eux, sur le chemin, une femme. Elle est sale. Ses vêtements sont en lambeaux. Elle leur réclame de quoi manger et de quoi se vêtir. Les trois partagent sans enthousiasme leur vivre avec la nouvelle venue. En maugréant, Rosine lui donne des vêtements de rechange qu'elle a dans son sac à dos. Un peu rassurée, mais très fatiguée, la femme raconte son épopée par bribes. Elle a été évadée par erreur lors de la démolition de la prison des femmes des Baumettes à Marseille et laissée en pleine nature par ses ravisseurs lorsqu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Depuis, elle tente de retourner vers le centre de détention, même détruit, mais elle n'arrive pas à sortir de cette immense forêt. Olivier voit là l'opportunité de geler la randonnée. Supporter deux femmes, maintenant, est au-dessus de ses forces. Cependant, avant que la montagne ne s'illumine, il monte deux tentes. Ils prennent un rapide repas fait de produits lyophilisés et de fruits secs, avant de se coucher pour la nuit. Très tôt, les marcheurs se réveillent. Leur guide est absent. Ils l'appellent, rien. Puis ils remarquent un mot épinglé sur l'une des tentes. Olivier leur annonce qu'il renonce à les guider. Il leur donne toutefois des indications pour rejoindre une route qu'il a repérée en marchant dans les gailles à l'aube. Ils avalent rapidement les boissons chaudes qu'Olivier a eu la courtoisie de préparer pour eux dans des thermos. Puis, ils se mettent en marche. Ils débouchent sur la route qui leur a été tracée par Olivier. Bon gré, mal gré, ils escortent la jeune femme jusqu'à une ville où elle pourra se constituer prisonnière. Ils échouent dans une agglomération et se dirigent vers la gendarmerie. La femme y explique son histoire peu banale. Les gendarmes sont dubitatifs. Pour eux, cette histoire d'évasion par erreur a pris fin depuis quelques jours, puisque la personne évadée a été retrouvée et emprisonnée. Personne ne s'attendait à cette annonce. la jeune femme s'effondre en larmes. Évadée par erreur, désormais en liberté par erreur, c'est trop pour elle. Rosine et Baptiste laissent choir la jeune femme sans lui donner d'explication. Ils rebroussent chemin vers leur point de départ pour récupérer leur voiture et rentrer chez eux. Seul. Que faire maintenant? Sans argent, sans toit, sans amis? Ses pas l'amènent devant une église, un mariage. Mendier, les gens heureux sont généreux? Elle s'installe à proximité du porche de l'église. Les cloches carillonnent, la noce sort sur le parvis. Soudain, elle entend un prénom. « Annie !» Un couple de la noce s'avance vers elle. « Annie, c'est inespéré que tu sois venue !» Abasourdie, elle bredouille quelques mots. « Allez, on t'emmène, tu vas rester avec nous pour toujours maintenant que tu es revenue !» Prenant Annie chacun sous un bras, ne prêtant absolument pas attention à la manière dont elle est vêtue, le couple l'accompagne rejoindre le cortège des mariés. Comment leur dire que je ne m'appelle pas Annie? Ils me prennent pour une autre, c'est certain. Tant mieux, puisque ces gens m'accueillent dans leur famille, je ne serai plus seule et j'aurai une identité. Et puis, si cette nouvelle vie ne me convient pas, je disparais. Quel destin, évadée par erreur, en liberté par erreur, et maintenant en famille par erreur.
Où peuvent bien arriver ceux qui prennent un mauvais départ et de présomptueux virages ?
C'est moi, le patachon qui prend dès le départ une chaotique diligence. À l'école, je lève mon pupitre pour me cacher de l'encrillé et sans m'en priver, je fais le pitre. Mon ventre affamé gargouille, mais je me régale des rires d'un public de cancre là. J'ai des copains rigolards, je fais un tabac, même les élèves sérieux sont pliés en deux à mes blagues de potache. Soyons clairs, sa perlipopette. Je ne suis pas une prout-prout, je pète et je rote. Je suis un rigolo à la masse, dit-on, tout en grimace. Je n'y peux rien, j'ai un visage de débile profond, dit la psy. Mais au fond, l'imbécile heureux ne se fait pas de bile jusqu'à... Oh, bonne mère, je ris jaune, je suis chassé de l'école primaire, puis reclassé en maison de redressement. Normal pour un tordu. J'emprunte donc une route dissolue, faite de zigzags propres aux zigotos. Très tôt, je m'éloigne au pas de course de ma famille groseille sans oseille. Je veux être saltimbanque, ce métier pourrait m'enrichir comme une banque populaire. Finalement, ça n'en a pas l'air. Je fais la manche, même le dimanche, mais pas fortune. J'atterris sur une friche industrielle avec des frocs en loques. Pourquoi se faire du souci? Bien que tout le monde s'en moque, je rêve d'être ventriloque. Pour l'heure, je soliloque. Mes essais sont des bides. Je dérouille de froid dans une carcasse de car rouillé. Parfois, je grelotte dans ce carrosse de courant d'air atroce. Je déménage pour un van dans un coin de terrain vague. Raphaël, mon vieux gitan, mon nouvel acolyte, habite une roulotte. À la lueur d'un feu de camp, ce voisin d'infortune caresse un chien. Ou sa chienne de vie, qu'importe, la bête m'invite à la veiller. Le matin, nous trinquons d'un jus de chaussette. Le soir, nos jours finissent en eau de boudin. Le pépé a une dent en or. Il a fait de la prison et il joue du violon. Qu'est-ce que Zigagne, à savoir qu'il est Zigane? Son chien s'appelle Petro, diminutif de Ki Petrovici. Ce sac à puce aurait pu être mon premier pantin. Malheureusement, je suis chassé, non par ce chien toujours couché, mais par la marée chaussée. Allez, houste, sur le pavé! J'en ai marre. Irma l'avait bien vu dans sa boule de cristal. Je trouve une cache dans les bas-fonds de la ville. J'y habite avec ma belle minette nommée Georgette. Je m'égosille avec elle à m'étrangler. Je l'habille d'une voix de soutien-gorge. Notre duo grésille sans enflammer les planches. Nous vivons dans l'autre sol d'un caveau. On nous prête la scène de théâtre, mais nous sommes bombardés de tomates. Autour des tables, des guignols font leur niafon tellement ils boivent. Dans ce cabaret, tout le monde est barré. Ma jolie poupée ne me fait pas rouler sur l'or, mais grâce à son gorgeon plongeant, je ne fais plus la plonge. Je la pars de bijoux, de beaux cailloux, de chouchous, je maquille ses grands yeux ronds de hibou, je la prends sur mes genoux et j'extermine tous les poux qui minent son ciboulot. C'est du boulot, mais bientôt c'est moi qui me gratte la tête, mes sketchs sont classés X par des censeurs pluriels. J'ai beau faire l'autruche, j'y laisse des plumes. Je me retrouve dans un trou de souris au fond d'un grenier de toile d'araignée. Mais voyez mon ascension, il ne faut pas le nier, de la cave au grenier. Le grand saut a fait un grand saut, n'est-ce pas ?
FM 91.2, les ateliers des Valounas.
Dans la nouvelle qui suit, on traite de grands sujets d'actualité de façon plutôt espiègle.
Il était une fois à Damas, sous le règne de Soliman le Magnifique, un vizir du nom de Abdullah ben Selim ben Ahmed. Ce haut fonctionnaire, sévère mais juste, tenait sa renommée de son lointain ancêtre Salah al-Din, celui que les Roumis appelaient Saladin. En cette année 951 de l'Hégire, dans cette même ville de Damas, une pauvre femme mendiait à la porte du grand bazar. Depuis que son mari, un artisan d'Inandier, était décédé, n'ayant pas d'enfant qui puisse la recueillir, elle n'avait plus aucun moyen de subsistance et s'en remettait à la charité publique. La population locale prenait en pitié cette brave femme devenue aveugle. En échange de quelques piastres ou d'une portion de mlaoui, elle parcourait volontiers de ses doigts la main de celles et ceux qui la sollicitaient. Elle avait ainsi aidé nombre de gens à faire le bon choix. Sa réputation avait grandi et on murmurait son nom jusqu'à l'intérieur du palais du grand vizir. Celui-ci, sur le point de marier sa fille, envoya ses sbires chercher cette Leïla et la fit conduire au palais pour la consulter. Leïla en menait d'autant moins large que sa cécité était feinte et elle craignait fort que tous ces personnages importants ne démasque sa supercherie. Introduite devant le vizir et sa cour, elle s'agenouilla en signe de respect et attendit. Le vizir fit apporter des boissons fraîches, des loukoums à la pistache et d'autres friandises dont Leïla n'avait jamais entendu parler. Quand elle fut rassasiée, le vizir lui adressa la parole.
« Ta réputation est venue jusqu'à nous, brave femme. »
Et pour répondre au désir de ma fille, je veux que tu ailles dans ses appartements et lises son avenir. Mais avant cela, j'ai plusieurs choses à te demander.
Parle, grand commandeur des croyants.
Je ne suis pas le commandeur des croyants, je ne suis que son serviteur. Dis-moi deux choses, vieille femme. Honores-tu les cinq piliers de l'islam ?
Je m'acquitte de tout, Seigneur, comme nous l'a demandé le prophète, béni soit son nom. Sauf en ce qui concerne le pèlerinage à la Mecque, qui n'est pas dans mes moyens.
Et ta cécité, d'où te vient-elle ? Aurais-tu péché contre le ciel ou tes parents avant toi ?
Leïla se mit à trembler.
Non, Seigneur. Je suis devenue aveugle après avoir surpris par hasard un djinn une nuit dans ma maison. Pour me punir d'avoir vu ce que je ne devais pas voir, il m'a ôté la vue, mais en échange m'a autorisé à voir dans l'avenir.
Ces réponses ayant donné satisfaction au vizir, les gardes emmenèrent Leïla dans les appartements de la princesse. Celle-ci l'attendait avec impatience et l'accueillit avec honneur. Puis elle lui confia ses soucis. Elle était heureuse d'être mariée prochainement à un grand prince, malheureuse de quitter sa famille, inquiète de ne pas être à la hauteur de sa vie future. Leïla prit la main de la princesse, suivit de ses doigts les lignes de vie, de chance et d'amour, et déclara.
Tu seras heureuse, princesse. Que ce jeune prince qui se promène sur les remparts de ton cœur soit béni. Il va t'aimer. Il sera aimé de son peuple et te couvrira de bienfaits.
Sa réputation d'homme généreux, juste et brave était déjà venue jusqu'à moi, répondit la princesse. Cependant, j'appréhende la nuit où il me connaîtra.
Quand ce prince voudra enfoncer son clou, laisse-toi faire et rends-lui ses caresses, princesse. Il ne t'en sera que plus reconnaissant.
Mais, rétorqua la princesse, il dispose d'un harem et me négligera.
Ne lui en tiens pas rigueur. Les mœurs des princes et la condition des femmes sont aujourd'hui ainsi. Et il vaut mieux être à plusieurs sur un bon coup que seul sur un mauvais. Il te fera de beaux enfants. Sache aussi le séduire avec des danses lascives. Conte-lui des histoires merveilleuses. Souviens-toi de Scheherazade.
La princesse remercia la vieille femme, confia son avenir à Allah et lui offrit 100 piastres. Quelques jours plus tard, la vieille Leïla fut à nouveau emmenée au palais. Elle en tremblait fort, persuadée que ses fantaisies mensongères avaient été découvertes. Le vizir lui adressa cependant la parole en ces termes.
« Ma fille s'est montrée ravie de tes conseils et je désire te récompenser. Dis-moi, vieille femme, ce que tu désirerais le plus au monde. Je possède ici une lampe magique d'où un génie peut exaucer certains vœux. Toutefois, je dois t'avertir que ce génie est parfois facétieux, distrait et désinvolte. Je te recommande donc la plus grande prudence dans la formulation de ton vœu. »
Leïla, ayant mûrement réfléchi, finit par avouer.
Merci Seigneur pour tes largesses. Qu'Allah te bénisse. Mon plus grand désir serait de vivre dans un pays sans sécheresse, où les pauvres mangent à leur faim et que chacun de mes amis soit habillé d'or.
Elle n'avait pas terminé sa phrase qu'elle fut entraînée dans un long tourbillon ébouriffant et lumineux. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle était sous un beau crachin breton, face à des brochettes qui grillaient sur un barbecue, au milieu d'un rond-point. Ses amis étaient tous là, et tous portaient des gilets jaunes.
Et pour finir, une fable écologique. Thank you.
capitaine Borsen sortit de la passerelle. Sur le pont, une nuit d'encre l'enveloppa. Enfoncé dans son lourd manteau, il humait le froid comme un aiguillon vivifiant pour ses oreilles attentives. Écouter, c'est ce qu'il préférait quand l'hiver il ouvrait un chenal dans les mers du nord glacé. Écouter le chuchotement ouaté de la coque contre la couche de glace. Le sillage ouvrait la voie au bateau qui suivait et donnait au capitaine du brise-glace ce calme olympien, cette maîtrise qu'on lui reconnaissait. Mais tout ça, c'était avant. Avant que le monde ne soit plongé dans l'obscurité depuis des mois. Au matin du 1er avril, la lune s'était plantée devant le soleil avec un sourire goguenard. Cela aurait pu être un poisson d'avril. On aurait pu croire que le lendemain, il ferait jour comme d'habitude. Mais la lune restait bloquée devant l'astre lumineux. Les ténèbres régnaient sur la terre entière. Dans un premier temps, cela ranima la flamme de l'économie. De plus en plus de cierges brûlaient devant les autels. La demande explosait en piles, batteries, groupes électrogènes, tissus fluorescents. Pour d'autres industries, ce fut la ruine. Tout ce qui était solaire, crème comme panneau ou encore lunettes ne se vendait plus. Peu à peu, les comportements humains se modifiaient. On constatait une première évolution de l'espèce. Les yeux rapetissaient. Au fur et à mesure que les orbites s'enfonçaient, les oreilles grandissaient. Il n'y avait jamais eu autant de chanteurs à fredonner juste. Tous les artistes n'étaient pas aussi favorisés que les musiciens. Les peintres, dans un univers sans lumière et donc sans ombre, ne parvenaient plus à représenter les volumes. Signe des temps, une toile, simple carré uniformément noir, creva pourtant le plafond des enchères. Les anciennes îles paradisiaques ensoleillées n'attiraient plus personne avec leur eau froide et leur nuit permanente, semblable à celle de toute la planète. Les touristes fortunés se précipitaient en Islande pour se baigner dans les sources chaudes et profiter des vapeurs volcaniques. Les foules se pressaient autour des volcans dans l'espoir d'une éruption. Mais même le Vésuve affichait un calme désespérant. Les services à la personne connurent un nouveau développement grâce à des start-up innovantes. Le chauffage body-body. Dans de vastes établissements, d'accordes jeunes femmes ou des jeunes hommes musclés vous prodiguaient les soins. Une heure de chaleur naturelle et 100% bio. Car tout refroidissait. La terre perdait degré après degré. Bois, charbon, gaz et pétrole ne suffisaient plus à assurer le combustible nécessaire de plus en plus cher. Il ne restait qu'à développer l'énergie nucléaire, construire de nouvelles centrales. L'uranium permettrait de maintenir la température de la Terre comme des océans au-dessus de 0 degré. Il fallait faire vite. La banquise grossissait. Baltique et mer du Nord étaient prises par les glaces. Les Européens décidèrent d'envoyer un convoi de cargo derrière une escouade de brise-glace pour apporter le précieux minerai du milieu de l'Afrique. Le capitaine Dorsen, nommé commandant des brise-glaces, prit la tête du convoi. Au passage de l'équateur, la glace n'était plus une simple pellicule de givre, mais s'épaississait. Il mit toute la vapeur, et pendant quelques heures, l'étrave fendit la couche sans difficulté. Puis, la coque, prise dans une gangue trop épaisse, le bateau n'avançait plus. Les chaudières allaient exploser. Il ne restait plus qu'à stopper. Derrière, les autres bateaux s'immobilisèrent l'un après l'autre. On était à une cinquantaine de milles des côtes du Gabon. La mort dans l'âme, les marins descendaient les échelles de coupé, marchaient vers le rivage en trébuchant sur la banquise équatoriale. Björnsen était de la race des capitaines qui n'abandonnent pas leur navire. Il avait des provisions pour longtemps, peut-être assez pour durer jusqu'à ce que le soleil se soit débarrassé de la lune. Il se mit à chanter, puis il se tut. Dans le silence glacé, il devinait comme le son d'une trompe jusqu'à ce qu'il reconnaisse le bruit d'un barrissement. À travers la vitre embuée, il aperçut un troupeau d'éléphants de taille imposante. Comme il se rapprochait, il réalisa son erreur. Ce n'étaient pas des éléphants, mais un troupeau de mammouths qui avançaient sur la glace. Une bouteille d'aquavite de sa réserve personnelle se trouvait toujours à portée de main. Il en remplit un verre. Les barrissements résonnaient de plus en plus fort. Sa boisson favorite, bien fraîche, était vraiment excellente. Regaillardi, il leva son verre à la santé des mammouths et de la nouvelle jeunesse du monde.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dam, ta-da-ta-dam, ta-da-ta-da-ta-da-da, ta-da-ta-da-ta-zam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va, 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 va.
Vous venez d'entendre, dans l'ordre de diffusion, Évadé par erreur, écrit par Lydie Bossard et dit par Anaïg. Vie de Patachon, écrit par Marie-Hélène et dit par Michel Frappard. Un jean facétieux, écrit par Bernard Ziller et dit par La Voluptueuse Compagnie. À la santé des mammouths, écrit par Patrick Monvoisin et dit par Michel Lannes. Vous avez peut-être reconnu des extraits musicaux de Comédie de Paolo Conte.
JTFM 91.2, les ateliers des Valouna.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauger, voix Marie-Jeanne, réalisation technique Luc Richard.